L'Europe
et vous
sur Radio B.
Notre défi,
vous faire comprendre.
Dom, c'est quoi le sujet aujourd'hui ?
Les fake news. Il y a une bonne raison pour aborder ce thème. Depuis pas mal de temps, elles courent les rues, l'internet, les réseaux sociaux, les échanges en tout genre, et j'en passe. On trouve les colporteurs chez des pseudo-journalistes, des politiques, des influenceurs, des experts autoproclamés, et j'en passe ici encore. Les fake news touchent tous les domaines. Politique, scientifique, sécurité, défense, immigration, rien ne nous est épargné. Dans le cadre de cette chronique, nous en resterons bien sûr à l'Union européenne pour nos rubriques habituelles.
Je vous les rappelle, le micro-trottoir, notre invité, la présentation simple d'une institution de l'Union européenne et notre jeu avec une question dans la réponse et dans l'émission. La règle, toujours la même, une question par chronique et un tirage au sort au mois de juin prochain parmi les personnes qui auront envoyé toutes les bonnes réponses à chaque question mensuelle. N'oubliez pas de tricher en écoutant le podcast. Au fait, Dom, c'est quoi une fake news ?
C'est de la contrefaçon de l'information. La particularité de ces bobards, une diffusion immédiate et très large. Tiens, imaginez un virus, celui de la grippe qui viendrait à toucher une grande partie de la population en une journée. Ça fonctionne comme ça, une fake news. La comparaison n'est pas si mauvaise. On entend souvent qu'une photo, une vidéo ou un article s'est propagé de manière virale. Impossible de soigner ça dans le même délai que la propagation. Alors il faut se vacciner. Comment ? C'est ce que nous allons aborder dans cette chronique.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Il s'est déroulé où ce micro-trottoir ?
J'ai emmené le micro avec moi dans différents endroits où je me suis déplacé. J'ai pu constater que le terme « fake news » n'incitait pas les personnes à répondre. Alors j'ai pris conseil et j'ai présenté les choses sous la forme d'un jeu « vrai ou faux ». Les questions sont basées sur des fausses informations qui ont été diffusées et qui restent gravées dans nos têtes malgré toutes les corrections apportées.
Si je vous dis « les Français préfèrent sortir de l'euro », vrai ou faux ?
Faux.
Je dirais vrai.
Moi je pense que c'est faux.
Vrai, je crois.
Ouais, moi aussi, je pense.
L'euro a fait chuter l'industrie française.
Non, faux.
Faux.
Je pense que c'est faux aussi.
Je sais pas.
L'Union européenne est une passoire pour l'immigration.
Faux.
Faux.
Je pense que c'est faux également.
Non,
faux.
80% des lois françaises proviennent de l'Union européenne.
Faux.
Vrai.
Je sais pas, c'était vrai, je pense.
Vrai.
Combien de pourcents ?
70 à 80%.
Non.
Le budget de l'Union européenne est supérieur à celui de la France.
Oui, vrai.
Vrai.
Je pense que c'est vrai aussi.
Oui. Vrai.
Il y a plus de fonctionnaires à l'UE qu'en France.
Faux.
Ah, faux, on est large.
Ça, je pense que c'est vrai.
Non, j'ai pas d'idée non plus. Bah...
Joker ?
Oui, joker. Il y en a un paquet en Europe, mais enfin, oui, j'ai pas de chiffres, non, je sais pas non plus.
La France est classée 10e dans les fonds reçus par l'Union européenne.
Vrai.
Faux.
Combien ? Quelle place ?
J'aurais dit 4e ou 5e.
Bah, je pense que c'est faux, par contre.
Non. Non.
Que feriez-vous pour lutter contre les fake news ?
Ah, il y a des gens qui travaillent pour les fake news déjà. Et ma fille travaille pour ça d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'elle fait ?
Évaluateur de médias.
Pour éviter les fake news, arrêtez de donner une audience nationale à des commentaires anonymes sur les réseaux sociaux par exemple.
Je pense qu'il faudrait, par exemple au collège ou au lycée, il faudrait qu'il y ait des intervenants qui viennent pour en parler et pour un peu nous sensibiliser dessus.
Tu penses qu'il faudrait que ça commence dès l'école donc ?
Oui, je pense.
Les fake news, moi je suis très peu sur tout ce qui en répand quoi, des fake news. Donc j'écoute, je suis pas sur les réseaux sociaux, j'écoute très peu.
Je lis surtout.
Donc
le meilleur moyen, c'est de choisir son information. Donc
oui, c'est ça.
Tout à fait. Ouais.
Oui.
Je vous remercie. Passez une bonne soirée.
Dom, les vraies réponses, c'est quoi ?
Les voilà enregistrées au même moment.
Les bonnes réponses sont les suivantes. Non, les Français ne préfèrent pas sortir de l'euro. 75% d'entre eux souhaitent même y rester. L'euro n'a pas du tout fait chuter l'industrie française. Cette chute intervient en 2008 lors de la crise mondiale dont tout le monde se souvient. Le Royaume-Uni, lui aussi, a connu une chute tout aussi importante. Pourtant, sa monnaie, c'est la livre sterling et ça n'est pas l'euro. L'Union européenne n'est pas du tout une passoire pour l'immigration. Preuve en est qu'en 2018, il y a 144 000 migrants qui sont rentrés dans l'Union européenne, et je dis bien dans l'Union européenne et pas en France. 80% des lois françaises sont imposées par l'Union européenne, pas du tout, c'est plutôt l'inverse, seulement 20 à 30%, et encore, cela dépend de la nature des lois. Le budget de l'Union européenne correspond seulement à peine la moitié de celui de la France. Il n'y a pas plus de fonctionnaires à l'UE qu'en France. Il y en a seulement 55 000 pour l'Union européenne. La France est classée première dans les fonds reçus par l'Union européenne. La raison est toute simple, ce sont les ressources qui proviennent de la politique agricole commune.
C'était une transposition trans de l'hymne de l'Union Européenne. Parmi vous, il y en a sûrement qui sont capables de créer leur propre version. Vous nous l'envoyez, on écoute, et si on prend, on diffuse. Vous pouvez faire tous les genres, guitare, flûte, jazz, pop, piano, ou même venir chanter de l'Ode à la joie.
Tiens, c'est une idée ça, je vais me proposer pour chanter.
Mais bien sûr, le studio de Radio B ne supportera pas, et la météo non plus. Passons vite à notre invité.
Bertrand Lullier, vous êtes attaché parlementaire au Parlement européen. Vous avez participé à une conférence sur l'Union européenne qui avait plusieurs thèmes et vous avez évoqué les idées reçues et les fake news sur le Brexit notamment. Les prochaines élections se dérouleront le 26 mai prochain. Dans ce cas, l'Union européenne présente un plan d'action pour lutter contre la désinformation en Europe. Pensez-vous que la situation soit préoccupante dans ce domaine ?
Bien sûr, je pense que ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, les infox sont une véritable menace pour nos démocraties. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, vous avez des citoyens qui sont désinformés et qui prennent une décision concernant leur vote qui n'est pas réelle. Vous avez récemment le Rassemblement National et M. Dupont-Aignan qui ont expliqué que le traité franco-allemand qu'on avait signé à Aix-la-Chapelle entre Angela Merkel et Emmanuel Macron allait vendre l'Alsace et la Lorraine. Là, il faut pouvoir dire de suite, couper court à tout bruit, j'étais en Alsace et à Strasbourg le lendemain, je peux vous dire que c'était bien français. Donc, il faut toujours le dire.
73% des internautes se disent inquiets de la désinformation, surtout au moment des élections. Est-ce que ce chiffre vous paraît réaliste ?
Bien sûr qu'il est réaliste. Je le vois tous les jours. Je travaillais au Parlement européen. J'ai eu la chance de pouvoir quitter pendant un certain temps le Parlement européen pour m'occuper de ma fille. Et j'en profite pour faire une sorte de tour de France, aller de ville en village. J'ai déjà fait 20 départements aujourd'hui, je suis dans l'Ain, à Replonge. Et justement, c'est ce contre quoi j'essaie de me battre, parce que vous avez un certain nombre d'idées reçues, je le disais, selon lesquelles les Français pensent, c'est parfois un peu vrai, mais c'est souvent très faux, que l'Europe, elle est inefficace, inutile et antidémocratique. Ces trois choses, comme je les montre aujourd'hui avec des exemples concrets, sont extrêmement fausses et il faut se battre de manière radicale. L'Europe ne peut difficilement légiférer sur ce sujet, le sujet des fausses informations. Pourquoi ? Parce que si vous dites, vous permettez à un État ou à un juge de dire qu'une information est fausse, en France, ça pourrait aller, parce que la justice est indépendante, parce que l'État pense au long terme, mais si vous pensez à d'autres États européens, comme la Hongrie, comme la Pologne, comme la Roumanie, si vous leur permettez de faire ça, à l'inverse, vous avez encore moins de démocratie dans ces pays. Donc il faut faire attention, la vraie solution, et la Commission l'a plutôt bien fait jusqu'à maintenant, le gouvernement européen, si vous voulez, elle s'est focalisée sur ce qu'on appelle les fact-checkers. Ça veut dire qu'elle fait confiance à certains médias, comme Le Monde, Libération, qui ont des décodeurs des fausses informations, qui vérifient si telle ou telle photo, telle ou telle vidéo, tel ou tel chiffre est exact. Et ensuite, Facebook peut mettre en avant ces publications, et toutes celles qui disent le contraire, ne pas les mettre en avant.
Les réseaux sociaux, vous avez dit, ils font partie des dangers pour la démocratie. À votre avis, est-ce qu'il faut les contrôler ? Et le corollaire à cette question, c'est comment y parvenir sans faire preuve de censure ?
Aujourd'hui, on a un problème énorme au niveau du droit européen. C'est que les plateformes numériques sont irresponsables. Je vous cite le droit européen. Elles sont irresponsables alors que finalement, elles régulent. Je peux penser à Facebook, à Google, à Apple et à bien d'autres. Elles régulent ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Elles régulent tout, mais elles sont irresponsables. Donc il faut une réponse très forte. Il faut les rendre responsables. Il faut qu'elles puissent, et ça vous pouvez passer une loi très rapidement à Bruxelles, il faut qu'elles puissent supprimer tous les contenus terroristes, haineux, les infractions aux droits d'auteur, etc. en moins de 24 heures. Pour les fausses informations, on en a parlé, c'est plus compliqué. Parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'illégalité, on est dans le domaine du problème démocratique, où chacun, finalement, des citoyens, doit aussi se prendre en main, avoir un esprit critique. Et ça passe par l'éducation, ça passe par beaucoup d'autres canaux que la régulation des réseaux sociaux.
On risque pas d'aller à la censure ?
Tout à fait, vous risquerez d'aller à la censure si demain, un juge et un gouvernement peut dire qu'une info est vraie ou fausse.
Mathieu Joly, vous êtes élève à Sciences Po et vous avez participé en tant que conférencier à un débat sur l'Union européenne ici à Replonge. L'Union européenne présente un plan d'action pour lutter contre la désinformation. Pensez-vous que la situation soit vraiment si préoccupante dans ce domaine ?
Je pense que l'Union européenne fait bien de se préoccuper de ces sujets-là, puisqu'on a pu voir qu'en France, en Angleterre et aux États-Unis, ça a été quelque chose de majeur. C'est important que tous les citoyens puissent avoir leur voix et leur volonté représentée justement, sans avoir à être influencés par des personnes comme la Russie ou la Chine.
Plus de 80% des personnes interrogées pensent que les fake news sont une menace pour la démocratie.
Je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens, expliquer aussi ce qu'est une fake news et expliquer comment les repérer. C'est pas une bonne idée que de vouloir mettre des lois sur tout. Il faut aussi expliquer aux gens qui a intérêt à propager telle ou telle information, les aider à avoir une pensée critique en fait.
Est-ce que ce sujet il est abordé à Sciences Po ?
C'est l'objet d'un cours complet sur justement la démocratie et justement les médias aujourd'hui, avec notamment les plateformes comme Facebook, etc. C'est un sujet qui devient majeur à Sciences Po, comme vous pouvez l'imaginer.
Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment un danger pour la démocratie, comme on l'entend
de plus en plus souvent.
Comme tout, ça a deux versants. Les réseaux sociaux ont permis, par exemple, à des dissidents politiques de s'exprimer, mais dans le même temps, il y a des gens qui ont pu profiter de notre bienveillance, entre guillemets. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas un minimum contrôlés, et ou du moins si les gens n'ont pas un esprit critique, comme ils peuvent l'avoir à l'égard des journalistes, ça devient un danger.
Avoir l'esprit critique et contrôler les réseaux sociaux, comment on peut y parvenir sans faire preuve de censure?
C'est un travail très très long, par l'éducation. C'est un travail qu'il faut mettre en place dans les écoles, expliquer aussi à qui profite le crime, et peut-être justement montrer à travers des exemples tout simples et déconstruire, peut-être en classe par exemple, pour ceux qui sont encore en classe, prendre un sujet, une théorie du complot, et la démonter point par point, montrer aux élèves que c'est stupide. Et sans donner son avis, mais juste expliquer et qu'ils se fassent par eux-mêmes l'idée que finalement c'est une bêtise.
Je vous remercie.
Je sais que le sujet des fake news travaille d'homme entre ses deux oreilles.
Et pas qu'un peu. Non et non, l'Alsace et la Lorraine ne vont pas tomber sous la coupe de l'Allemagne. Soit on me trouve où c'est écrit dans le traité, soit on m'explique comment, en lisant ce même traité, on peut avoir une telle interprétation. Moins connu et toujours dans le domaine européen. Un soi-disant lien entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme. L'auteur de cette étude a été radié de l'ordre des médecins dans son pays, le Royaume-Uni. Le Brexit. Ah, le Brexit. Un cas d'école. Juste un exemple parmi tant d'autres. Promesse des partisans du Brexit. 350 millions de livres par semaine en faveur du service de santé anglais grâce à la fin de la contribution britannique aux caisses de l'Union européenne. On fait un peu les comptes. Si je ramène ça à l'année, 18 200 millions de livres, soit encore 22 milliards d'euros, en comparaison avec la dernière contribution britannique à l'Union européenne, 13 à 14 milliards d'euros. Il n'y a pas un truc là? Je continue?
Bah oui, t'as l'air bien lancé.
Le prix de la baguette de pain a augmenté avec l'euro. Un rappel surprenant et nécessaire. En 1990, la baguette est à 3,14 francs, soit 48 centimes d'euros. En 2002, date de l'arrivée de l'euro, 4,48 francs, soit 68 centimes d'euros. 2017, 5,69 francs, soit 80 centimes d'euros. Alors non, l'inflation sur le prix de la baguette n'a donc rien à voir avec l'euro.
Que faire?
À mon sens, il existe deux moyens. Le curatif et le préventif. Pour le curatif, il existe la loi, mais la difficulté consiste à remonter jusqu'à l'origine de la fake news et bien sûr la personne qui l'a créée. Et si une loi suffisait pour régler un problème, ça se saurait. Et puis comment différencier la bonne foi d'une mauvaise intention? Quant au préventif, il dépend essentiellement de nous tous. Un esprit critique adapté à l'information délivrée. Une photo ou une vidéo ne doit être prise en compte qu'après certitude. On entend souvent aussi, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Un bon exemple, le taux de chômage dans l'Union européenne est de 6,7% de la population active, soit 16,5 millions de personnes. C'est bien ça, mais quel chômage? Les personnes qui n'ont jamais travaillé, ou bien avec ou sans celles qui ont travaillé un peu? Il faut savoir que la population active représente le nombre total des personnes ayant un emploi ou étant au chômage. Les chômeurs sont des personnes âgées de 15 à 74 ans. Oui, vous avez bien entendu, de 15 à 74 ans, qui sont soit sans travail pendant la semaine de référence, sont disponibles à commencer à travailler dans les deux semaines suivantes, soit ont été à la recherche active d'un travail pendant les quatre semaines précédentes, soit ont trouvé un travail à commencer dans les trois mois suivants. Compliqué, hein? C'est plus compliqué que de se contenter d'un chiffre balancé avec une attention ciblée. Donc, à retenir, pas la complication, mais retenez que quand on entend un chiffre, on doit savoir qu'il faut faire attention. Enfin, nous pouvons faire appel à notre bon sens. On entend et on lit très souvent que l'Union européenne est responsable de nombreux problèmes en France. Mais c'est quoi l'Union européenne? Comme son nom l'indique, c'est une union. Et dans une union, les décisions sont prises de manière collégiale. Et non, une bonne fois pour toutes, les votes ne sont pas pris systématiquement à l'unanimité. La plus grande partie, 80% environ, correspond à la majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'il faut 55% des pays qui représentent 65% de la population pour que la loi passe.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Chaque semaine, Dom vous présente une institution européenne. Laquelle pour aujourd'hui?
La Commission européenne. On lui attribue beaucoup de défauts. Et pourtant, elle ne vote rien du tout. C'est le boulot du Parlement et du Conseil. Les membres, une équipe de 28 commissaires, un par État membre, quelle que soit la taille du pays et son importance. Elle a été créée en 1958 et elle siège à Bruxelles.
On passe à la question de notre jeu. Quelle est la date de mise en circulation de l'euro en France? Répondez par un mail à mde01.eu. Vous avez plein de moyens de tricher. C'est terminé, c'était Kumba.
Et Dom, prochaine chronique, l'égalité femmes-hommes dans l'Union européenne. Écoutez-la, c'est édifiant.